Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les voies du scénarium. Il est 22h03. On a eu un petit faux départ et puis il est l'heure que vous souhaitez hein, si vous avez téléchargé ce podcast sur le www.radio-g.fr. On est ensemble pendant une heure et on va faire une émission plutôt speed. Elle va être posée, mais vous allez peu m'entendre puisque on va faire une émission quasiment intégralement consacrée à l'interview que j'ai échangée avec Patrick Massad, le responsable d'OBA Édition, qui va nous parler des productions et des jeux de rôle qui vont rentrer sous le label OBA Édition. Donc des jeux de rôle qui sont pour l'instant à divers états, même si certains sont beaucoup plus avancés que d'autres. Et puis, on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard de d'Imperium 5 qui sera en financement participatif très prochainement. Je vous redonnerai plus d'informations très très bientôt. Et puis, avant de lancer l'interview, je serai présent prochainement à l'Angers Geek Fest avec la radio. Et j'ai envie de vous proposer une petite expérience ludique, quelque chose de pas très compliqué, mais le but ce sera de faire un jeu de rôle participatif, un cadavre exquis. Je poserai une situation et puis chaque interlocuteur aura la possibilité de faire évoluer cette situation en étant au micro et en décrivant un petit peu ce qu'il veut faire. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira, qui pourra être intéressant. Et puis, on essaiera d'expérimenter ça à l'Angers Geek Fest. Je vous redonnerai les dates tout à l'heure. En attendant, on va écouter Patrick Massad qui va nous parler des jeux qui sont sous le label OBA Édition.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Là, on vient de parler de d'autres auteurs. Donc, alors, j'ai pas compté exactement combien il y avait de créations. Je vais les énumérer. Tu me dis si j'en oublie.
D'accord.
on a dans l'ordre peut-être Greca.
Ouais.
Non, Super Bâton RPG en premier.
Super Bâton RPG, ouais, exactement.
On a Greca, on va avoir Wallow Wild,
ouais.
L'Éveilleuse,
ouais.
Lune.
Oui.
Et je crois que j'en oublie un.
Non, pas pour l'instant. On a rien d'annoncé de plus. Ça, je le garde pour 2024, parce que ça fait déjà beaucoup de projets à gérer en communication.
Est-ce qu'on peut éventuellement revenir sur la genèse de certains projets?
Alors, ouais.
En commençant par Super Bâton RPG, éventuellement?
Ouais, bien sûr. Alors, Super Bâton RPG, après, j'explique. En fait, suite à Super Bâton RPG, la méthodologie et la réflexion a été très légèrement changée, en fait. Bah en fait, Super Bâton RPG, okay. on était un peu en train de déconner. C'était bientôt le 1er avril. Freux, donc de Geekpois, dit ouais, c'est cool, on peut faire des bonhommes bâtons qui se tabassent, tout ça, tout ça. Moi, je dis ouais, bah c'est cool, on pourrait en faire un jeu de rôle. Chiz, vas-y. Il en parle, je pense, à Guillaume Jantet. Et 48 heures. Mais vraiment chrono, hein. 36-48 heures après, en fait, Guillaume m'envoie en fait un document Word qui contient les règles quasi finales de Super Bâton RPG. Donc le
tout express.
Ouais. Et puis la mécanique, franchement, elle est très cool. Un Pictionary RPG où les limites c'est l'imaginaire et la superficie de la feuille de perso. Voilà. En fait, une fois que t'as ça, tu te dis bah c'est cool. Freux a fait les illustrations, ça donne un look and feel très très sympa. Il a fait une première maquette, je suis repassé dessus. Alors je suis pas maquettiste, hein, mais bon voilà, j'ai fait de la maquette dans ma carrière, etc. Donc derrière, si c'est juste pour faire une maquette avec une colonne et mettre des styles, c'est pas très compliqué.
Ça se fait.
Et puis en fait, comme j'avais la possibilité de faire imprimer des petits ouvrages, on s'est dit on imprime la version numérique, elle est libre, elle est sur le itch.io de Guillaume, et la version physique en fait on la donne à Octogone. Et en fait, si les gens prennent, c'était la blague, si les gens prennent Super Bâton RPG, on leur offre le kit de démarrage d'Imperium 5. Voilà. Et donc en fait, on part du principe que on va sortir deux ou trois extensions. Chacune va être limitée à 75 exemplaires physiques. Et donc les premiers arrivés, premiers servis. Voilà. Et donc on a fait Super Bâton RPG, qui était uniquement le système. Ensuite, on a fait un premier scénario pour Octogone, pour Octogone. C'était spécial Halloween. Et puis pour Noël, on a fait un spécial Noël qu'on a sorti en mars.
Avec un petit décalage du coup.
Ouais, avec un petit décalage. Bon, le maquettiste était un peu à la traîne. Il travaillait sur un autre jeu, je crois. Et en fait, l'idée, c'était... Guillaume aime bien créer des choses. Et en fait, une fois qu'elles ont leur propre vie, ils passent à autre chose. Voire, ils passent à autre chose très vite. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bah, OK, on finit Noël, on fait un dernier scénario. Et ensuite, on introduit un petit jeu supplémentaire. Donc là, en fait, le scénario est en train d'être écrit. Il sortira, je pense, en avril. C'est un scénario d'une vingtaine, trentaine de pages qui va venir clôturer Super Bâton RPG. Et puis, il va y avoir, en fait, Pixel RPG, qui est l'évolution numérique de Super Bâton RPG. Il n'aura pas de suite, c'est juste, en fait, une petite mécanique du jeu avec des petits jeux amusants. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Et là, je me suis dit, en fait, c'est très intéressant comme travail. C'est une vision du jeu de rôle qui peut remplacer le jeu de société dans certains cas. Voilà. J'ai envie de passer du montant, je vais basculer sur du Super Bâton RPG. Je prends en main très très facilement, je joue pendant 20 minutes, une demi-heure, peut-être une heure. et je m'arrête là. Voilà, c'est vraiment en fait du jeu de société one shot avec de la rejouabilité. En fait, super bâton RPG.
Et accessible à vraiment tout public en fait.
Exactement.
De très jeunes jusqu'à même vieux.
Ouais. Et donc là, en fait, à partir de ce moment-là, c'était en 2020, tiens, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, bah, en fait, ok, il y a Imperium 5, bon, ça, c'est mon bébé. Là, l'objectif, c'est de sortir des jeux qui vont faire ce que nous, enfin, ce que j'ai appelé un pont ludique. En fait, mon objectif, c'est de construire un pont ludique des mondes de l'imaginaire vers le jeu de rôle. Donc, ce que j'appelle les mondes de l'imaginaire, ça peut être les jeux de société, ça peut être les BD, ça peut être les romans, ça peut être les séries, d'accord ? Et c'est de sortir en fait des mécaniques ou des jeux qui vont en fait attirer les lecteurs de romans, les lecteurs de BD ou les joueurs de jeux de société et qui vont leur faire faire du narrativisme mais pousser un peu plus vers le jeu de rôle, d'accord ? Et il y a surtout, il va venir, parce que ça, c'est, ce principe-là est pas novateur. Enfin, j'ai rien inventé. Mais ce que je voulais, parce que je ne le trouvais nulle part, c'est d'expliquer, en fait, la démarche aux gens pour qu'ils comprennent qu'à la fin, une fois qu'ils se sont bien amusés, qu'ils viennent de faire du jeu de rôle et que le jeu de rôle, c'est le jeu auquel ils viennent de jouer. Mais c'est tout un tas d'univers, de mécaniques, de règles qui peuvent être diverses et variées. Voilà. Et donc faire de la pub, c'est-à-dire mettre clairement de la pub pour, je vais citer Black Book, pour les courants alternatifs, pour voilà. C'est-à-dire, j'ai demandé le droit. Tout le monde est d'accord. Il y a pas de contrepartie, il y a pas de négociation ni quoi que ce soit. C'est juste pour dire aux gens, bah en fait, vous pouvez jouer à des jeux OBA. Mais vous avez envie de vous faire peur, bah il y a de l'appel de Cthulhu, il y a du Cthulhu Hack, il y a plein de trucs. Vous souhaitez aller dans l'espace, bah vous avez envie de jouer à des Jedi, bah vous allez chez Edge, vous allez avoir des jeux, etc., etc. Voilà. Pour leur ouvrir en fait très simplement les chakras. Ouais, à ma petite échelle. Donc cette gamme,
une sorte de passerelle en fait vers le JDR. En
ouais,
fait,
c'est ça. C'est ce qu'on appelle un pont ludique chez nous.
Vers les JDR.
Vers les JDR, voilà. Et en fait, c'est on a une gamme qu'on est en train de construire, qui a différentes formes. Elle est pas normée et c'est normal parce que quand tu veux t'attaquer à un truc, tu veux t'attaquer au roman, au BD, etc. Tu vas pas normer de la même manière. Et donc Greca est arrivé là. D'accord. Donc Greca, c'est un roman de Lizzie Amaro. C'est une de mes collègues de travail. Elle avait déjà réalisé un cycle qui s'appelle Horizon chez Inceptio Édition. Et là, en fait, elle m'a posé des questions sur Greca parce qu'elle savait que je travaillais sur Imperium, sur la partie technologique, etc. Et en fait, je me suis dit, pourquoi je ferais pas la démarche, en fait, de contacter Inceptio et de leur dire, ok, moi j'aimerais bien faire une adaptation. Combien ça coûte? Voilà. On est tombé d'accord sur un pourcentage et donc c'est de là qu'est né le projet de Greca le JDR. D'accord. Donc. Et là, il a fallu se réorganiser. C'est-à-dire comment je fais, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, etc. Donc là, en fait, l'idée, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait chaque jeu a sa propre équipe. Voilà. En fait, chaque jeu doit fonctionner en autonomie. Donc c'est un peu difficile à mettre en place, mais grosso modo, chaque jeu va avoir son illustrateur, son ou sa graphiste, son ou ses auteurs. D'accord. Et après, au niveau des relecteurs, on n'est pas obligé de mettre un relecteur spécifique parce que les temporalités sont différentes, donc ça peut s'enchaîner différemment. Ce qui fait qu'en fait, un jeu comme par exemple Greca ou comme Wallowide, en fait, ils ont leurs équipes.
Voilà. Et ils auront leur identité propre.
Ils auront par définition. Ils auront leur identité propre, exactement. Ils sont En fait, chaque équipe est un espèce de petit studio qui se focalise. Alors, comme on appelle chez nous, ils font du swarming. C'est-à-dire, en fait, ils vont sur un projet, puis ils doivent le faire, accompagné de l'auteur. Moi, je reste un petit peu en arrière, bah, pour payer les factures, pour régler la partie financière, pour dire, quel format tu veux, tu vois, parler plus technique, d'impression, tu vois. Même s'il n'est pas la technicité, mais au moins en fait je fais intermédiaire avec les personnes. Après évidemment je jette un œil critique, mais je pars du principe que si la personne par exemple veut écrire avec de l'inclusivité, veut écrire les joueuses ou les meneuses, etc. En fait c'est j'ai pas à lui imposer quoi que ce soit. C'est l'auteur en fait qui prend en charge ça, d'accord. Évidemment, il y a des choses que OBA, puisque ça part sous le label OBA, il y a des choses en fait où il y a des choses que je veux pas qu'on écrive dans les jeux, voilà. Donc c'est vraiment
en fait même une ligne en fait de conduite à garder si on veut être un jeu OBA.
Ouais, c'est ça. Il y a une ligne de conduite. Après, il faut qu'il y ait un élément qui me parle. Évidemment, parce que si je suis pas intéressé, je serai pas intéressé. c'est pas plus compliqué que ça. Faut vraiment que ça m'intéresse, voilà. Ou bien que je sois initiateur du truc. Malheureusement, j'allais dire le propriétaire d'OBA, si je suis intéressé par un truc, je vais pouvoir le pousser en avant. Mais sinon, en fait, c'est des projets qui m'ont interpellé en fait. Donc ça a été le cas pour Greca. Et en fait, à partir de Greca, on a composé l'équipe autour de Wildwide. Une fois que je connaissais Merlin déjà depuis 2 ans, 3 ans, donc il m'a présenté en fait le jeu rapidement. J'ai trouvé ça très intéressant on a composé une équipe autour de Wildwide. Et l'objectif de Wildwide et de Greca pour Octogone 2022, ça a été en fait de formater un bouquin, deux livrets de trentaine de pages qu'on a mis en Pay What You Want sur le stand et qui permettait aux gens en fait de découvrir l'univers, de pouvoir jouer avec des aventures solo. Donc ça a été les grands trucs. Ça m'a confirmé que ça fonctionnait. Voilà. Que le fait de parler du jeu, puis ensuite de faire un petit livret que tu distribuais numériquement, gratuitement, physiquement, selon la bonne volonté des gens, qui contient un peu d'univers, un tout petit peu de règles, et qui fait une aventure solo, ce qui fait que tu t'immerges très facilement dans l'univers, et qu'ensuite tu peux proposer, sans sortir le jeu, tu peux proposer une aventure qui peut jouer à plusieurs, plus proche du jeu de rôle, c'est un ensemble de choses qui font que les gens sont hypés par les jeux, voilà. Donc ça a été cool. Donc là j'ai parlé des même, deux. Ouais, vas-y.
Même si j'ai l'impression, alors on va parler aussi de jeux un peu plus différents encore derrière. Même si on est déjà sur 3 jeux très différents, que ce soit Bateau RPG, que ce soit Wallowide ou Greca, on a vraiment une recette initiale qui se ressemble. C'est donner envie, faire découvrir.
Ouais. Exactement. C'est la résultante et l'expérience d'Imperium 5. Quand on a fait Octogone en 2019, les gens étaient intrigués par les graphismes, ils étaient intrigués par la maquette, ils étaient intrigués par la proposition. Ils pouvaient être critiques sur la mécanique du jeu, mais c'est pas grave. En fait, justement, c'est là où en fait tu vas recueillir. Tu vas générer une communauté, tu vas recueillir les avis, tu vas expliquer pourquoi tu as fait certains choix et pourquoi en fait effectivement tu vas potentiellement jeter à la poubelle tout un pan de ta création pour pouvoir le réécrire parce que t'as des retours. Voilà. Ça a été d'autant plus vrai au moment en fait où on était à Cannes en 2020 et on a distribué en fait le premier kit bêta. Là, très clairement, en fait, les gens, ils étaient très contents d'avoir un jeu. Donc, effectivement, ça a un coût. Ils étaient contents d'avoir un jeu, de découvrir un jeu qui était en mode bêta. Enfin, c'est comme ça que je l'ai présenté et c'était le cas. d'avoir du contenu, d'avoir des feuilles de personnages, d'avoir de quoi jouer, de voilà. Et en fait, bah, j'ai reproduit la même chose en étant un peu plus, en rationalisant un peu pour ne pas dépenser des mille et des cents. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on part sur des livrets qui sont au format A4, 32 pages à peu près, couverture comprise, ce qui fait que tu gères en fait ton budget, d'accord ? Tu mets un budget maximal par illustration, ce genre de choses. Voilà, tu gères le budget. Imperium, c'est budget illimité. Bon, donc on peut pas comparer. Mais t'arrives à intéresser. Donc les 120 exemplaires de Greca et les 120 exemplaires de Wallow Wide, il y en a entre 80 et 90 qui sont partis sur Octogone. Qui pour moi en fait est plutôt pas mal. Dans toute vente d'Imperium, bah en fait on glisse automatiquement du Greca et du Wild White pour faire découvrir. Donc on a dû refaire un deuxième tirage de 75 exemplaires de Greca et de Wild White. Donc on est à peu près grosso modo à 200 exemplaires qui sont dans la nature de chacun. Voilà. Donc c'est plutôt gratifiant et je me dis que potentiellement, vu que les gens, en fait, c'est des aventures solo, ils peuvent se le prêter, tu vois.
Ouais, c'est pas limitatif.
Non, voilà. Donc ça a fonctionné pour Imperium, je pense. Je croise les doigts pour le financement participatif. Ça a fonctionné sur Octogone avec Wild Wide et avec Greca. Et donc, pour l'instant, sur l'année 2023 et 2024, on partira là-dessus. Et le but, c'est de se remettre en cause. C'est de se dire, bah là, ça marche plus, il faut qu'on trouve autre chose pour dynamiser ça. Voilà.
Et sur les jeux à venir, on en a trois, du coup ? Deux.
Les jeux à venir, après... alors, il y a Lune... C'est un jeu qui est un peu à part, c'est mon petit chouchou, on va dire. Et il y a Les Veilleuses. Alors Les Veilleuses a une histoire très 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 particulière, puisque Les Veilleuses, il y a un mois, je ne connaissais pas l'existence.
D'accord.
Il y a Guillaume qui me dit ouais, on est en train de sortir un jeu avec Willy. Tiens, je voudrais te le montrer pour que tu me donnes ton avis. Voilà, on s'entend plutôt bien avec Guillaume. Donc là, je vois la maquette. Je la trouve très claire. Les illustrations, les photographies retouchées de Willy, la maquette de Willy, je l'ai trouvée très très claire, très limpide, très immersive. Enfin, tu vois, je t'enverrai et les gens peuvent aller sur le site web. Et en fait,
on invitera les gens à aller chercher des infos. On va détailler un petit peu les propositions ludiques après de tous ces jeux-là.
D'accord. Et donc voilà. Donc là, en fait, ça a été une révélation, c'est le coup de cœur. Et donc là, je me suis dit, ok, le bouquin il fait 32 pages. Donc let's go pour Cannes, voilà. Donc Willy a été très réactif, il m'a fourni des éléments graphiques, on a fabriqué la partie du site web qui concernait Les Veilleuses, et donc là le fichier est chez l'imprimeur et c'est imprimé demain. Donc voilà. Donc,
oui, c'est du jeu de rôle express, quoi.
C'est la fabrication qui est express. La fabrication, vraiment du papier, parce qu'en fait la maquette, elle était déjà présente. C'est-à-dire que le très gros du travail était déjà fait. Willy a une très bonne, enfin voilà, c'est un très bon graphiste, donc il a fait les choses extrêmement, extrêmement d'équerre. Donc moi derrière, en fait, j'avais juste besoin de lui dire, tiens, voilà, il faut mettre un ISBN, est-ce que tu peux mettre le crédit là, etc. Tu vois, des trucs mineurs, tu vois. Et derrière, bah, en fait, il a généré tout. Toute la partie lecture, c'est des amis et des contacts de Guillaume et de Willy qui l'ont fait. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est express à ce niveau-là.
Ok. Donc nous, le jeu était déjà bien prêt avant.
Ouais, le jeu était prêt, testé. Il allait sortir sur Itch.io. Donc moi, je leur ai dit, bah, on va l'imprimer on va prendre contact avec Novalis, on va le mettre en distribution boutique. En fait, moi, c'est ça qui est essentiel, c'est que il y a des jeux indépendants, on pourra en reparler, il y a des jeux indépendants qui n'ont pas de visibilité dans, en boutique. Ils sont connus, ils ont leur communauté sur le net, mais ils valent le coup d'être joués. Ils valent le coup d'être découverts par 80% de la population qui ne sait pas que Internet existe. J'exagère, mais ou que le monde, que l'Internet rôlistique existe réellement. Donc c'est des gens qui vont en boutique, qui vont lire des revues classiques papier, ce genre de choses. Et le but, c'est de distribuer le plus de d'indépendants en boutique. Voilà. Donc en fait là, en fait, on va en envoyer, je sais pas combien, 200 chez Novalis. Ils seront disponibles logiquement en boutique à partir du mois de mars. Et puis on va en vendre directement à Cannes. Ils seront sur le site web. Et puis bon, on a fait un peu de communication. On a acheté des dés pour les gens qui viendront à Cannes. On a les feuilles de personnages sont en papier ensemencé avec des graines. Donc une fois que vous avez échoué les six campagnes, enfin les six aventures, et que vous allez pouvoir planter votre feuille de votre personnage. Le c'est du papier recyclé. On a acheté des dés en bois. Bref, on a fait une espèce de packaging qui va dans l'esprit du jeu et qui correspond en fait à Guillaume et à Willy. Ils sont très contents, et moi aussi.
Ça a l'air en tout cas. Et on aborde un petit peu le cas particulier de Lune.
Ouais.
Et puis on parle des jeux en eux-mêmes, de ce qu'on va pouvoir jouer dedans.
Ouais, tout à fait.
Alors comment s'est né du coup le projet Lune en tout cas, en tant que tel?
Alors Lune, en fait c'est en 2020. Je te décris la scène. Imagine que je suis un meneur de jeu, que je te décris une scène. T'es assis à une table. Devant toi il y a une allée et il y a des gens qui passent devant toi qui s'arrêtent pas parce qu'ils savent pas du tout ce que c'est que le jeu de rôle. D'accord. Cannes c'est 110 000, 120 000, 130 000 visiteurs. Tu vois. Okay. Donc c'est la sortie familiale. L'entrée est gratuite, enfin, elle était gratuite. Donc les gens, ils passent et puis ils regardent. Les gens s'arrêtaient tout de même au stand parce que soit ils étaient intrigués par les dessins, les illustrations de Fanny, donc les parties Imperium, soit par ces illustrations avec les petits animaux. Et ensuite, tu poses la question naturellement, tu vois, à ces gens-là, est-ce que vous savez ce que c'est que le jeu de rôle, ce genre de choses? Et la plupart du temps, les gens, en fait, ils savaient pas, et puis ils allaient aller plus loin, et puis ils allaient jouer à un jeu de société. Donc là, je me suis dit, en fait, on loupe. Bref, l'organisation fait pas son boulot. Je vais pas revenir dessus. Il devrait y avoir une communication pour que les gens qui viennent, ils sachent qu'ils sont dans la section jeu de rôle et qu'ils savent ce que c'est qu'un jeu de rôle, grosso modo. Et donc là, je me dis, en fait, faut faire un truc. Donc l'idée de Lune, elle est apparue à ce moment-là. C'est en fait comment faire un jeu de rôle au coin d'une table. T'es debout, tu demandes aux gens de tirer une carte, ils tournent la carte, et là tu leur dis, ok, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Et tu les accompagnes. Donc c'est For the Queen, For the Drama, tout ça. Voilà. Donc ça, c'était en 2020. Et donc là, Fanny, elle avait un univers et en fait on a mélangé les deux idées. C'était aussi un outil promotionnel, c'était en fait pour aller voir des éditeurs pour leur dire en fait je vais vous donner les cartes de visite de Fanny, et c'était les rois, et Fanny pouvait se présenter, et en fait l'idée c'était de dire si vous voulez vous pouvez récupérer le reste du paquet de cartes illustrées. Mais à ce moment-là, vous venez au stand. D'accord? Donc c'était vraiment un outil pour attirer les gens, pour que Fanny puisse avoir des clients pour illustrer. Okay. En 2021, je crois qu'il y a eu un problème au niveau du Covid, et en fait, on n'est pas descendu à Cannes. Mais on a gardé l'idée en tête, et en fait, on a transformé ça en jeu de tarot illustré par Fanny, qui a ce rôle-là, en fait, de pouvoir se jouer au coin d'une table. Et selon les paramètres que tu mets, ça peut durer 15 minutes comme ça peut durer 45 minutes. Voilà. Et à la fin, toujours dans le même esprit, on explique que c'est un jeu de rôle et pas l'inverse. tu joues d'abord, puis ensuite on dit bah tu viens de faire un jeu de rôle. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite t'as les pubs du genre bah le jeu de rôle c'est OBA, mais c'est aussi tel univers. Donc c'est la même chose que j'ai décrit précédemment en fait.
Toujours le pont ludique quoi.
Toujours le ouais. En fait Lune et Greca en fait font partie du pont ludique. Lune vise les jeux de société. Greca vise en fait les romans young adultes ou les romans un peu imaginaires, voilà. Ou les voilà. Le but c'est que les gens qui veulent faire de la fanfiction à partir de romans, des romans qu'ils lisent, bah en fait on leur donne des éléments pour qu'ils puissent faire de la fanfiction. Voilà. Donc c'est les deux jeux, même s'ils sont totalement différents, même si l'approche entre guillemets est pas différente, la philosophie derrière est la même. C'est en fait comment tu construis un pont ludique et que tu attires les gens qui jouent aux jeux de société vers le jeu de rôle et comment tu attires les gens qui lisent des romans vers le jeu de rôle.
Wall of White, c'est un petit peu comment on attire les gens qui regardent des séries télé vers le jeu de rôle?
Non, alors Wall of White fait partie de la gamme expert, on va dire. D'accord. Il s'adresse tout de même à un meneur qui a une certaine expérience, qui va pouvoir insuffler et dynamiser en fait sa table. Donc c'est vraiment, on est plus dans la même gamme que Imperium. Voilà.
Ok. Eh ben, du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu des différents univers? Donc, Lune, on a développé très brièvement. Quel était l'univers justement développé par Fanny dans lequel on va jouer?
Alors, en fait, c'est un monde mystique et chamanique. Voilà. Après, on a étoffé. Évidemment, mais l'idée de base, c'est que c'est un monde qui est en régi par des règles imposées par ce qu'on appelle la lune dorée. Et la lune dorée, en fait, impose un équilibre entre la lune sombre et la lune claire. Parce que ce sera expliqué dans le jeu, mais la lune sombre et la lune claire, cause du chaos automatiquement quand elles sont l'une avec l'autre, et ça a empêché la vie de s'épanouir et de se développer. Et en fait, on va dire que là ça rejoint un peu les principes de Moorcock: chaos, loi et la balance. Donc la lune dorée, à chaque fois qu'elle se lève, en fait elle rebat les cartes, les deux lunes, la lune sombre et la lune claire, en fait, vont commencer en fait à réveiller leurs héros, chacun de leur côté, pour que en fait la bataille puisse être gagnée par l'une ou l'autre des camps, ce qui fait que la période qui va suivre va être sous domination de la lune noire, enfin de la lune sombre, ou sous la domination de la lune claire. D'accord? Voilà. Et donc c'est un cycle comme ça, en fait, c'est un cycle perpétuel. Donc ça, c'est on va dire l'explication de surface. Parce qu'évidemment, il va y avoir des petites campagnes qui vont permettre de découvrir progressivement l'univers. Les esprits sont extrêmement présents, puisqu'en fait, les humains sont liés aux esprits, sont possédés par les esprits, arrivent un peu à manipuler les esprits, et on est dans ce côté chamanique où en fait tout est esprit. Le temps, le froid, le climat, la chronologie, la pierre, tout est esprit. Et les esprits qui dominent le continent où on va jouer, c'est en fait, il y a quatre esprits animaux: le cerf, le sanglier, le loup et le corbeau. D'accord. Ces esprits majeurs en fait sont liés à la terre, et la terre est liée à un souverain. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est que au moment où la lune dorée se lève, au moment où on va jouer, en fait, la lune sombre corrompt les rois, corrompt la terre. D'accord? De son côté, la lune claire, en fait, va réveiller ses héros, qui sont les prêtresses de la lune et les chevaliers de la lune. Les joueurs vont incarner les chevaliers ou les prêtresses de la lune, donc c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 4, avec ou sans meneur.
Okay.
Et on va retourner des cartes. Les joueurs vont devoir raconter une petite histoire et ensuite dire la manière dont ils veulent résoudre la situation qui vient d'apparaître devant leurs yeux. D'accord? Donc il y a une mécanique de jeu qui intègre en fait que des cartes. C'est que les cartes qui sont utilisées. On peut perdre des points de vie, on peut tirer des cartes pour générer un peu d'aléatoire, un peu comme des dés. Il y a un pack de cartes qui va être des pouvoirs, donc les joueurs selon les joueurs et les joueuses selon le on va dire le niveau de difficulté vont pouvoir tirer un ou deux pouvoirs chacun. Et puis à un moment donné, en fait, dans le paquet de cartes événements, il va y avoir un roi. Et au moment où le roi voit le jour, bah en fait là il se passe des événements, et si le roi est battu, eh bien, bah en fait, on part du principe que c'est la lune blanche qui a gagné. Voilà. Ça c'est la mécanique. C'est l'idée. Et donc on va travailler sur la partie un peu plus univers, parce que l'idée derrière, pas tout de suite, mais l'idée derrière, c'est d'en faire un jeu de rôle tout de même qui utilisera les cartes. Et donc on va petit à petit approfondir les petites histoires, un petit peu l'univers, parler des autres continents pour bah en fait un peu étendre l'univers. Mais là en fait,
donc il y a encore.
Ouais, vas-y.
Vas-y, vas-y.
Non, non, mais.
Il y a encore une gestation, en fait, qui est. Le jeu, dans sa phase finale, n'est pas encore prêt, quoi.
Alors, le jeu de cartes, il est prêt. Les règles sont en train d'être testées. On va bientôt les distribuer, les règles, puisque c'est pas tant les règles qui sont intéressantes, c'est le paquet de cartes. Voilà, illustré par Fanny, sur lequel on va mettre. Un maximum de qualité graphique avec de la dorure, etc. Voilà, donc c'est sur ça qu'on va se focaliser, sur lequel on va se focaliser. Les règles, faut qu'elles soient adaptées, faut qu'elles soient narratives, faut pas qu'elles soient trop strictes. Et on va aborder en fait la première phase de découverte dans le jeu. Ça, toute cette partie là en fait est presque prête. Une partie est déjà rédigée. Là, l'objectif, c'est vraiment en fait de donner le temps à Fanny de finaliser les cartes, et ensuite de créer en fait toute la partie communication pour lancer le financement participatif. Le jeu de rôle va venir dans un second temps. Voilà, on le décorèle complètement de la sortie du jeu de cartes, en fait.
Ok. Est-ce qu'on peut alors, parce que le temps file quand même à toute allure,
oui.
et tu es très bavard. Est-ce qu'on peut parler de Greca, ce que c'est, ce qu'on a parlé du fait que c'était issu d'un roman.
Oui.
Donc je sais déjà que ça se passe pas pendant les romans.
Mais exactement.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Bien sûr. Alors on va faire vite mais efficace. Notre bonne vieille Terre subit catastrophe sur catastrophe. Nous sommes plusieurs siècles après notre époque, et voyant la Terre péricliter, un certain nombre d'individus sont choisis pour prendre des vaisseaux arches pour traverser le système solaire, la galaxie, et rejoindre un point très éloigné qui a été repéré avec une planète qui correspondrait qui pourrait être colonisée. Et donc trois vaisseaux partent. Donc le voyage n'est pas décrit parce que ça fait pas partie du roman. Et les vaisseaux malheureusement ont des problématiques. C'est un voyage qui est très long. Arrivent sur la planète, s'écrasent, mais les humains survivent. Ils colonisent la planète. Et là, en fait, on est à peu près 1000 ans après la colonisation de la planète. Donc, on est dans un monde qui se reconstruit. On est dans un monde de SF, une thématique qu'on appelle plutôt planète opéra. Puisque tout est focalisé sur la planète et sur la lune. Dans les romans, bah en fait, on va suivre un certain nombre de gens, principalement quatre personnes qui sont les héros. En fait, on comprend que progressivement il y a des problèmes climatologiques, etc., et qu'en fait les humains n'ont pas appris de ce qu'ils de leur expérience passée, de ce qu'ils avaient fait à la planète, à la planète Terre, et ils sont en train de recommencer. Et visiblement là, la planète, en fait, elle génère des problématiques extrêmement importantes climatologiques, très fortes, etc., avec des sécheresses, etc. Donc à la fin des romans, évidemment, ça monte en climax avec un événement assez fort. Cet événement assez fort, en fait, ouvre les yeux à la population. Et les cinq pays, territoires, qui sont implantés depuis 1000 ans, se disent, en fait, on comprend, on a failli passer à côté d'une véritable catastrophe, donc on va créer une assemblée, qu'on appelle l'assemblée grécale. Voilà. Et donc, on est 30 ans après, le jeu de rôle, en fait, se situe 30 ans après que l'assemblée grécale ait été fondée. Et donc, Greca, en fait, met en avant cette vision positive et écologique, d'accord ? Mais on a voulu rajouter quelque chose de plus dur, de plus réaliste. Et donc les joueurs en fait vont avoir des personnages qui vont appartenir à une organisation qui appartient à l'Assemblée, qui est en frange de l'Assemblée, une organisation, on va dire, secrète, qui est là pour essayer de comprendre ce qui se passe, de réguler les problématiques de certaines mouvances, d'intervenir auprès de certains États ou de certaines entreprises qui ne suivent pas les réglementations de l'Assemblée, qui potentiellement peuvent être dangereux pour l'équilibre de la planète. Et donc c'est des individus qui ont, entre guillemets, le droit de tuer. Voilà. Et on est sur un côté un peu, alors je vais pas dire James Bond parce que c'est pas le cas, on est plus sur une thématique à la Alias, c'est une série des années 2000, je crois, en fait c'est des agences privées, et les joueurs vont appartenir à une de ces agences privées, et voilà, il va y avoir des enjeux à mission principalement, ça c'est l'objectif de départ, c'est plus simple pour aider les joueurs récents à rentrer dans du jeu de rôle, c'est plus simple, c'est plus cadré. Il y a une ouverture, il y a des ouvertures possibles, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a l'écologie, il y a toute la partie politique, géopolitique, diplomatie, espionnage, assassinat, etc., etc. Il y a une partie, en fait, il y avait une civilisation avant sur Greca. Donc il y a cette redécouverte des anciennes civilisations, toute cette partie, on va dire, archéologie, découverte d'artefacts, ce genre de choses. Et puis il y a Greca en elle-même que vous découvrez dans les romans, avec en fait cette pierre, cette matière qu'on appelle le Grécon, qui est une espèce de source d'énergie, une espèce d'uranium, mais en bien plus intéressant et vachement moins polluant. Bref, voilà. Donc on est à la base sur un jeu à mission avec un groupe de joueurs et de joueuses qui vont aller se balader pour découvrir et empêcher des choses. Et puis au fur et à mesure, les joueurs et leurs personnages vont découvrir que c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc ça c'est Greca. Je sais pas si j'ai été pas trop long.
Non, c'est pas mal. Lequel tu veux aborder ? Il reste Wallowhead et puis les Veilleuses.
On va aborder Wallowhead parce que j'allais dire c'est mon chouchou, mais je l'avais déjà dit pour. En fait, Wallowhead, c'est du western moderne, c'est de la série policière américaine. C'est un dépaysement, mais véritablement total. C'est-à-dire qu'en fait, tu découvres ce qu'est le Wyoming dans Wallowhead. C'est un comté qui a été inventé inspiré par Longmire, par Banshee, et qui a été inventé par Merlin, mais c'est réaliste, c'est-à-dire c'est pas, il y a pas de fantaisie. On est dans la vie quotidienne d'un adjoint de shérif, d'un enquêteur, d'une journaliste, en fait, on va apporter son histoire à soi, à l'enquête qui est en train d'être faite. L'enquête, c'est un élément en fil rouge qui a son importance, mais au final, ce qui va être intéressant, c'est la manière dont les joueurs vont utiliser le background de leur personnage pour venir enrichir cette histoire, pour faire remonter des contacts des protagonistes, ils vont se poser des questions. Je prends un exemple, imagine il y a un vol avec un trafic de drogue, et puis moi, mon personnage, il a une vision un peu particulière du vol de drogue, parce que mon cousin avec qui j'étais en contact, etc., il s'est fait arrêter il y a 10 ans, 15 ans pour trafic de drogue, ce genre de choses, et bizarrement je le revois dans la rue, d'accord. Donc là, en fait, en tant que personnage, je vais en fait faire rentrer mon histoire dans l'histoire. Et je vais la construire avec le meneur, voilà. Donc c'est en fait c'est ça qui est très fort dans Wild Wild, c'est cette espèce d'amalgame de jeux narratifs, de propositions de séries policières, de dépaysement dans un Wyoming. Et dans un comté du Wyoming inventé. Le comté, hein, il est pas tout petit, hein, il fait la superficie de la Bretagne. Donc il y aura de quoi se balader.
Il y a matière.
Voilà. Et donc.
Mais du coup, ça va être un échange constant entre le MJ et les joueurs, en fait.
Alors, il va y avoir dans un premier temps, dans le livre de base, en fait, une campagne qui normalement sera suivie par deux autres campagnes, puisque en fait, il y a trois saisons. D'accord. Merlin a une vision véritablement de série policière. Donc, dans le livre de base, il y aura une campagne. Cette campagne, elle sera composée, alors je ne sais plus exactement, de 8 scénarios. Et donc, dans ces scénarios, en fait, on va jouer des pré-tirés. D'accord. C'est vraiment très, okay, très, très, très orienté. Et en fait, progressivement, en fait, on va apprendre des choses au fur et à mesure. Des scénarios, ben en fait, il va y avoir du lore supplémentaire que les joueurs vont découvrir, que le meneur va découvrir au fur et à mesure des scénarios. Voilà. Donc là, par exemple, en fait, on va sortir l'épisode 0 pour Khan comme une vraie série. Et donc dans le comment ?
C'est le pilote.
Ouais, c'est ça.
L'épisode pilote. Ouais.
C'est ça. C'est le pilote, le scénario, l'épisode pilote. Il va sortir pour Khan. Et donc il intègre des informations complémentaires sur les personnages, que les personnages vont connaître, vont découvrir ou connaissent et qu'ils vont pouvoir intégrer. Voilà. Donc en fait cette mécanique là, elle est introduite, et après, une fois que la campagne aura été jouée, évidemment libre aux joueurs de prendre des one shot qu'on va sortir, de les jouer, de créer leur propre personnage. Et d'enrichir l'univers de Wild Wild. L'objectif de Wild Wild, c'est pareil que dans Imperium, c'est de pousser les joueurs à nous renvoyer du contenu qu'ils auront fait, de nous faire des rapports de police, d'accord, qu'on publiera en fait sur les sites web. D'ailleurs, dans le livret, le tout premier livret, en fait, il y a un QR code. Vous faites l'aventure en solo, et ensuite, on vous invite à écrire un rapport de police, voilà, que vous pouvez nous partager. Voilà, pour donner un petit peu votre vision. Donc là, en fait, cette mécanique-là, elle sera réintroduite dans Wild Wild. D'une part, dans la gamification, dans la manière de jouer, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des rapports de police qui seront à faire tous ensemble, meneurs et joueurs. Et donc, c'est une espèce de débrief, d'accord ? Mais qui va être constitué de vous avez arrêté tel mec, vous lui avez pas lu ses droits, je l'ai noté, donc ce qui fait qu'il y a son avocat qui en fait va le faire sortir, ou bien vous avez tiré sans les sommations, tu vois, voilà. En fait, il y a cette cette mécanique-là qui sera introduite en fait dans le jeu en elle-même. C'est-à-dire que quand tu fais un scénario, tu dois la débriefer après parce qu'il y a des conséquences à payer. Et en fait,
la fin de partie va amener d'autres mécaniques pour les parties suivantes.
Ouais. Et en fait, on invite les joueurs une fois qu'ils ont fait le débrief, les joueurs, la table, à nous l'envoyer pour qu'on puisse la partager. Voilà. C'est des espèces de comptes rendus d'aventure comme certaines personnes le font, mais elles vont être un peu cadrées pour permettre aux meneurs et aux joueurs de pouvoir évaluer ce qui va se passer après. Voilà, ça c'est Wild Wide. Alors donc il utilise un système assez simple basé sur Itos, qui est un jeu espagnol, un jeu multigenre espagnol, publié par la Loutre Rôliste, je crois, en France. Donc il est en licence libre en Espagne. Donc c'est très largement inspiré, mais la mécanique est la même. Et Merlin, il a inventé une mécanique pour la gestion de duels. Donc ça peut être un duel de flingues. Ça peut être un duel, une course-poursuite, c'est une espèce de duel, on va dire. Voilà, tout ce qui va être en fait en opposition 1-1, en fait, il y a un système de cartes assez amusant qui permet en fait de résoudre. Voilà. Et le meneur, il peut gérer de façon classique avec le système Itos, ou bien s'il veut changer le look and feel ou la sensation que peuvent avoir les joueurs pour résoudre une situation, ils peuvent basculer en mode duel. Et je trouve que ça, la proposition était intéressante aussi. Donc, ça fait partie des choses qui m'ont intéressé, en fait.
Ça permet en plus de varier les plaisirs selon le feeling que peut avoir une table, quoi.
Ouais, exactement.
Top. Et du coup, les veilleuses, de quoi ça parle?
Alors, les veilleuses. En fait, vous jouez des esprits. Donc c'est un jeu narratif collaboratif avec meneur. Vous jouez des esprits de la forêt, des petits esprits de la forêt, et vous allez en fait vous opposer au néant, à la destruction. Donc il n'y a pas de settings. Le settings, en fait, il peut s'élaborer au départ. On tombe sur, en fait, on est dans le monde d'Imperium. Et on a trouvé, aussi étrange que ça puisse paraître, on a trouvé 4, 5, 6 buissons. Et potentiellement, en fait, l'énergie négative dans Imperium fait que ces buissons sont affectés. À ce moment-là, en fait, il y a des esprits qui apparaissent spontanément, autant d'esprits que de joueurs, évidemment. Et ces esprits, en fait, sont là pour rendre persistant et faire croître le buisson ou la zone végétale qu'ils doivent protéger, d'accord? Voilà. Donc en fait tu peux basculer comme ça en fait dans n'importe quel type d'environnement. T'as envie de jouer dans The World of Darkness avec la corruption, le Wyrm, etc. Voilà, tu peux te créer ton petit lore et hop, tu joues très facilement. Tu veux jouer dans un truc, tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire, de plus traditionnel. Il y a quelqu'un qui va raser une forêt pour construire un centre commercial. Spontanément, la nature réagit, tu vois. Enfin voilà, d'accord. Et à partir de là, en fait, la mécanique du jeu, elle est assez dynamique, assez simple. Tu as des caractéristiques, donc c'est un peu orienté genre PBTA, c'est assez archétypal. C'est-à-dire que tu as 6 caractéristiques, chacune des caractéristiques en fait, c'est une action que tu peux faire. Par exemple, la première caractéristique, c'est créer. Donc si tu veux créer quelque chose, tu vas utiliser cette caractéristique. La sixième caractéristique, je crois que c'est détruire. Donc si tu veux détruire, ce sera la sixième caractéristique. Tu vas lancer des D6 et si tu es en train de créer, le mot créer, il est en première position, donc c'est tous les dés qui font 1 vont compter comme des succès. D'accord? Si tu veux détruire, c'est la sixième caractéristique, donc il faut que tu fasses D6 avec tes D6. D'accord? Si tu veux protéger c'est 4. C'est la quatrième caractéristique. Donc, il faut que tu fasses 4 avec tes dés pour réussir. Voilà, tout simplement. Donc, vraiment, en fait, c'est une mécanique très simple. Et d'ailleurs, on va la proposer pour que les gens viennent la hacker. T'as envie de créer un jeu avec des démonistes qui peuvent invoquer, révoquer, bannir, tout ça. Ben, en fait, tu remplaces les caractéristiques des veilleuses par les mots qui vont te permettre de gérer ton univers, ce qu'on appellerait dans Imperium les paradigmes. Et puis, tu peux jouer. Tu vois, voilà comment
on chaîne les bêtises. Très accessible.
Très. 32 pages, superbe. Les règles tiennent en quelques pages. Après, c'est des exemples d'univers. D'ailleurs, il a écrit un truc sur Greca. Voilà, il s'est dit voilà, vu que Greca, il y a de la végétation, tout ça. Pourquoi ne pas créer un petit setting. Ça, les settings, c'est genre un paragraphe, tu vois. Et donc, il y a un petit paragraphe sur Greca dans les veilleuses pour pouvoir jouer aux veilleuses, mais dans Greca.
Ça donne un côté un peu transmédia en fait sur tous les jeux.
Ouais.
Des petites allusions.
Ouais. Et puis je trouve ça amusant et je trouve ça sympa de la part de Guillaume d'avoir fait ça. Et ça rajoute en fait de l'attrait transmédia d'OBA. Voilà. On veut être transmédia. Et ça rajoute en fait ce côté un peu amusant. C'est t'as les petits clins d'œil dans les gammes OBA, t'as ces petits clins d'œil. Tu vas te retrouver potentiellement avec des pyramides, tu vois, dans certains jeux. voilà, c'est des petits clins d'œil. Ça peut être dans les illustrations, ça peut être dans l'histoire, etc. Et là, en fait, il y a une construction entre les veilleuses et Greca et ça reste totalement cohérent. Voilà, mais je peux pas vous dire pourquoi ça reste cohérent, mais ça reste cohérent.
Radio G. www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur, enfin, vous êtes toujours sur les voies du Scénarium. On vient d'écouter Patrick Massad, le directeur dirigeant. Je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. Je lui poserai la question de OBA Édition, qui nous parle des jeux qui sont en gestation ou sur le point de sortir. On en reparlera puisqu'Imperium 5 va être en financement participatif très bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site. Non, tapez Imperium 5 financement participatif et vous devriez avoir des informations. On arrive sur la fin de l'émission. Il nous reste une petite minute ensemble. Je vous rappelle que je serai présent à l'Angers Geek Fest pour faire une petite partie de jeu de rôle collaboratif. Et si vous désirez y venir gratuitement, n'hésitez pas à simplement faire la petite demande sur les réseaux sociaux, alors que ce soit sur la page de la Caisse de Seb ou sur les pages d'Instagram de la Caisse de Seb des Voix du Scénarium ou la page Facebook des Voix du Scénarium. N'hésitez pas simplement à faire la demande et je piocherai parmi les commentaires. Il y a 2 places à gagner. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous allez pouvoir retrouver ce podcast dans quelques instants sur le www.radio-g.fr. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble les voies du Scénarium.